J'aimerais remercier très chaleureusement mes chers collègues Emmanuel Aubin, et Loïc Le Boyer et Pierre-Yves Munger. Et mon intervention porte sur la théorie du pouvoir constituant et la limitation matérielle du pouvoir de révision au Japon. Il va de soi que la notion de pouvoir constituant est l'une des plus fondamentales dans la théorie constitutionnelle. Elle se trouve par définition au carrefour de la communauté politique et du constitutionnalisme ainsi que de la démocratie. En Europe, avec la montée en puissance de la justice constitutionnelle et la multiplication des révisions constitutionnelles dans le contexte de l'intégration européenne, les débats autour du pouvoir constituant sont d'une grande actualité. En outre, on fait de plus en plus attention au déroulement du processus d'établissement d'une nouvelle constitution du point de vue de l'exercice du pouvoir constituant originaire dans la perspective d'un multiprocessus démocratique, ce qui contraste avec la notion décisionniste de Carl Schmitt. En profitant de cette occasion, je voulais faire une brève présentation des caractéristiques et des développements de la théorie du pouvoir constituant au Japon, ainsi que de la limitation du pouvoir de révision. Je voudrais mettre en lumière les caractéristiques historiques et les développements de la pensée constitutionnelle japonaise par rapport à ce sujet. Cependant, à cause de la contrainte de temps, je remarque tout simplement que sous la Shakuta impériale de Meiji, malgré une grande différence idéologique entre les deux courants constitutionnels principaux, autoritaires d'un côté et libéral de l'autre, ils ont avancé tous deux une théorie de la limitation du pouvoir de révision. Pour les constitutionnalistes japonais, les éléments formels ne sont pas capables seuls de nous renseigner sur la nature juridique de la Constitution. Cette conception de la Constitution comme sommet et de la hiérarchie des normes et non comme simple assemblage des lois constitutionnelles parfois disparates concernant la forme de l'État, s'est durablement enracinée au Japon et ce, dès le début de l'établissement du droit constitutionnel en tant que science académique jusqu'à aujourd'hui. Il est considéré que cette ligne de pensée n'est pas sans lien avec le sentiment du nationalisme. Il s'agit de son expression à travers l'établissement de la Constitution. Dans le cadre de la charte de Meiji, cela est tout à fait manifeste. Maintenant, je saute à l'établissement de la Constitution de 1946. Bien que la nouvelle Constitution maintienne le système monarchique traditionnel, comme mentionné professeur Sogave, celui-ci demeure fondamentalement libéral et démocratique. La légitimité constitutionnelle devait être un outil utile et puissant pour la libéralisation et la démocratisation de la société japonaise. En fait, en ce qui concerne la disposition relative à la révision constitutionnelle, conformément à l'article 96 sur la procédure de révision constitutionnelle, toute modification constitutionnelle requiert l'approbation des deux tiers des membres des deux chambres de la Diète et la majorité des suffrages exprimés lors du référendum national obligatoire. Il faut remarquer que jusqu'à présent, aucune modification constitutionnelle n'a été effectuée. On peut dire que dans un sens, cela montre sa capacité à s'adapter à l'évolution du contexte politique et social qui l'entoure. Malgré sa rigidité, il est parvenu à s'imposer dans la durée pendant plus de 70 ans, malgré les évolutions radicales du contexte politique et social. Cette construction ne comporte aucune disposition intangible, c'est-à-dire interdisant explicitement une révision relative à un quelconque objet, à la différence de, par exemple, l'aliéna 5 de l'article 80. 9 de la Constitution française de 1948, qui interdit que la forme républicaine du gouvernement fasse l'objet d'une révision. Il n'y a par ailleurs aucune autre limitation circonstancielle ou substantielle, comme le sont en France le dernier alinéa de l'article 7, l'article 16 et l'alinéa 4 de l'article 89. le problème de limitation de la limitation matérielle du pouvoir de révision constitutionnelle est toujours fermement installé au cœur des débats doctrinaux. Il est tout à fait profond de voir qu'au Japon, malgré le changement radical entre les deux lois fondamentales, la doctrine favorable à la limitation matérielle du pouvoir de révision est toujours très majoritaire, dépassant les clivages doctrinaux, aussi bien avant qu'après la guerre. La doctrine majoritaire estime que la révision constitutionnelle n'est pas susceptible de recevoir n'importe quel contenu. Cela est d'autant plus frappant qu'au-delà des différences méthodologiques de chaque constitutionnaliste, son écrasante majorité a abouti au même genre d'affirmation, c'est-à-dire que la Constitution comme incarnation des valeurs fondamentales. Cette façon de penser dans le droit constitutionnel japonais mérite une observation. En effet, les valeurs fondamentales de la charte impériale du Meiji étaient considérées comme kokutai, la forme de l'État, son essence étant la domination de l'Empire par l'Empereur. Cette formule avait pour fonction de renforcer l'ordre social traditionnel, mais modernisé sous le gouvernement du Meiji pour justifier la domination autoritaire et militaire. Avec l'introduction de la Constitution de 1946, elle est devenue la totale négation de ces valeurs monarchiques au profit des nouvelles valeurs fondamentales, à savoir le respect des individus, la démocratie et le pacifisme. En fait, malgré les changements constitutionnels, l'idée que certaines valeurs fondamentales restent la base de la Constitution est intacte. Or, bien que la doctrine constitutionnelle japonaise soit d'accord pour avancer qu'il n'existe pas qu'un seul degré de normativité constitutionnelle, il se sépare sur ce qui constitue les limitations concrètes pour le pouvoir de révision du fait de sa nature juridique qui est très nettement distinguée de celle du pouvoir constituant originaire. Dans ces débats doctrinaux, une partie de la doctrine fait valoir que la seule véritable limite concerne le changement du souverain, le reste étant entièrement susceptible de révision. En revanche, la doctrine dominante estime que les trois principes fondamentaux de la Constitution actuelle qui constituent son identité au sens smithien, indépendamment du texte constitutionnel en vigueur, indiquant implicitement les limites concrètes à la révision constitutionnelle, en l'occurrence la garantie des droits fondamentaux de l'homme, le principe de la souveraineté du peuple et l'aspect du pacifisme. Force est de constater qu'une telle position a une grande signification sur le plan politique et permet de sauvegarder le régime constitutionnel libéral et démocratique d'après-guerre contre les conservateurs autoritaires. Il s'agit d'un rempart théorique contre la révision conservatrice sur la nouvelle constitution de 1946. En ce qui concerne la garantie des droits fondamentaux de l'homme, il est remarquable que l'article 11 utilise l'expression des, je cite, droits éternels, fin de citation, tandis que l'article 97 consacre des droits fondamentaux dont on doit, je cite, garantir à jamais à l'inviolabilité, fin de citation. Une partie des auteurs souligne qu'une telle expression suggère implicitement l'existence d'une limite de la révision constitutionnelle sur la protection des droits, ce qui rendrait sa suppression interdite. D'autres estiment que ce n'est pas le principe du pacifisme en tant que tel, mais plutôt l'interdiction de se doter d'un potentiel de guerre énoncé radicalement à l'alinéa 2 de l'article 9, qui constitue plus précisément l'identité de la Constitution actuelle. Par ailleurs, il y a des auteurs qui considèrent que la disposition sur la procédure de révision constitutionnelle, c'est-à-dire l'article 96, constitue également l'une des limites indispensables pour sauvegarder le principe du constitutionnalisme. En effet, cette disposition a été introduite directement par le pouvoir constituant lors de l'édiction de la Constitution pour permettre très exceptionnellement de provoquer un changement explicite de la norme constitutionnelle. En conséquence, cette théorie établit la hiérarchie des normes au sein de la Constitution comme suit. Premièrement, les principes fondamentaux. Deuxièmement, la disposition concernant la révision constitutionnelle. Et troisièmement, les dispositions constitutionnelles ordinaires. En fait, elle souligne l'impossibilité de supprimer le référendum obligatoire national lors de la révision. En partageant cette conclusion, certains invoquent plutôt la théorie d'Alf Ross pour démontrer l'impossibilité logique de la révision de l'article 96 par ce même article. Comme on l'a vu, la doctrine majoritaire insiste sur les principes fondamentaux de la Constitution comme limite concrète de la révision. Le problème est qu'en pratique, cette limite est tellement vague qu'il est très difficile d'identifier un dépassement de la limite juridique, sauf les cas absolument évidents. Par exemple, la négation de la souveraineté du peuple. Il est remarquable que deux constitutionnalistes japonais de premier plan aient présenté une théorie de pouvoir constituant respectivement pour empêcher son exercice par le peuple et pour renforcer indirectement la théorie de la limitation du pouvoir de révision. En effet, Yoichi Higuchi vous jurait perpétuellement le pouvoir constituant et Yasuo Hasebe désire expulser la notion de pouvoir constituant du champ de la science juridique, comme Karl Malmberg. Une des caractéristiques des théories constitutionnelles japonaises d'après-guerre était de se fonder sur la postulat du droit constitutionnel en tant que science sociale. Il existait deux méthodologies représentatives qui les ont orientées. La néo-kantienne, weberienne, kelsenienne, déjà représentée avant-guerre par Toshiyoshi Miyazawa, qui désire être libre de tout jugement de valeur, et celle de l'analyse matérialiste, historique, marxiste du droit et de la politique, laquelle n'avait pas eu droit de citer dans le monde académique juridique de l'avant-guerre. Yoichi Higuchi a parfaitement présenté représentait le premier courant méthodologique. En se basant sur cette méthodologie, il a présenté une théorie originale de l'État et des droits de l'homme pour contribuer à enraciner et développer les idées constitutionnelles libérales et démocratiques immanentes à la loi fondamentale de 1946. Sa théorie du pouvoir constituant correspond exactement à la thèse de l'immutabilité de l'acte constituant bien formulé par Olivier Beau, ici présent, dans son ouvrage magistral « La puissance de l'État ». En fait, il la formule ainsi. Le pouvoir constituant s'épuise une fois qu'il a été exercé. Il ne peut plus être modifié à tout moment. Non seulement au nom du principe démocratique, le peuple ne pourrait pas modifier à tout moment sa constitution et comme il l'entend, mais juridiquement, il serait limité par son prédécesseur, le pouvoir constituant originaire. Ainsi, selon l'expression de Higuchi, le pouvoir constituant doit être perpétuellement gelé dans la théorie constitutionnelle contemporaine. En fait, il affirme que la fonction du pouvoir constituant dans la démocratie contemporaine est essentielle pour justifier juridiquement un ordre existant, c'est-à-dire une force politique exercée au nom de la nation qui serait supposée être sujet de ce pouvoir. Une réutilisation du pouvoir constituant aboutirait alors à la négation du normatif. Il serait donc pertinent d'éviter l'usage de la notion elle-même de pouvoir constituant dans la pratique du droit. Quant à la théorie de Hasebe, il souligne de nouveau dans la littérature récente que le concept de droit et de celui de peuple, même comme sujet de volonté, n'existe qu'à l'intérieur de l'ordre juridique au sein de l'État constitutionnel que le prétendu pouvoir constituant ne présuppose aucune compétence juridique préexistante et n'est donc pas une notion juridique au sens strict du terme. Il s'agit d'une méthodologie juridique strictement dualiste, enforcée, évidemment, par Hans Kelsen. En conséquence, dans son vision positiviste, la notion de pouvoir constituant ne peut absolument pas être juridique, mais seulement une notion sans juridicité. Une notion qui n'existait que dans une pseudo-science juridique. Il estime qu'en ce qui concerne son utilité, il suffit que tous les problèmes jusque-là traités à travers la notion de pouvoir constituant soient examinés à travers la question de son appréciation du point de vue de la moralité politique. Force est de constater que ces deux doctrines partagent le même sentiment de méfiance très profonde vers le peuple japonais. En fait, ils craignent qu'un dictateur militaire et ou totalitaire prenne le pouvoir de l'État en justifiant la destruction du régime constitutionnel actuel et l'établissement d'un nouveau régime politique en invoquant l'exercice du pouvoir constituant dans une démocratie populaire contemporaine. Examinons maintenant la question de l'effet pratique de l'affirmation que le pouvoir constituant serait limité. En fait, la doctrine constitutionnelle japonaise qui défend, même énergiquement, cette thèse, l'estime limitée. Sans doute a-t-elle pour seule fonction, du point de vue de la théorie constitutionnelle, d'alerter le peuple, de l'éclairer avant son vote au référendum national. Cela contraste avec la tendance générale qu'on peut observer du point de vue du droit comparé globalisé, où l'attention se porte plutôt sur le contrôle juridictionnel du pouvoir de révision. D'une manière générale, cette doctrine japonaise considère que la thèse de limite au pouvoir de révision permet seulement aux constitutionnalistes instruits de la situation constitutionnelle d'arrêter le peuple japonais sur le fait qu'une autodestruction de l'identité constitutionnelle et une révolution au sens juridique sont encore. En effet, d'un côté, il est considéré que le rôle du contrôle de constitutionnalité des lois de type américain confié au pouvoir judiciaire par la constitution japonaise consiste à juger la conformité des normes et des actes infraconstitutionnels de l'État, y compris de la loi parlementaire, au texte constitutionnel. En conséquence, contrairement aux justices constitutionnelles allemandes, italiennes, indiennes ou colombiennes, entre autres, au Japon, il n'est pas imaginable que les juges examinent la conformité de la révision constitutionnelle à la Constitution, plus exactement à la structure fondamentale de la Constitution ou à son identité. D'ailleurs, peu de constitutionnalistes proposent d'instauration d'un contrôle de constitutionnalité de la révision constitutionnelle pour remettre en cause par voie juridictionnelle d'une révision constitutionnelle. En conséquence, si le peuple donnait son accord à un projet de révision constitutionnelle considéré comme dépassant les limites matérielles ou même procédurales identifiées par la doctrine, le lieu de ce référendum constitutionnel favorable à une telle révision proposée par la Diète serait interprété comme celui de l'édiction d'une nouvelle constitution suscité par une révolution juridique qui aurait rompu la continuité légale avec le régime constitutionnel précédent. De toute façon, au Japon, la théorie de la limitation constitutionnelle de la révision constitutionnelle, limitation matérielle de la révision constitutionnelle, avait pour fonction de défendre à l'aide des idéaux du droit naturel moderne la démocratie libérale contre le nationalisme autoritaire mal liquidé, dont une expression politique était le mouvement réformiste dans les années 50. Il convient d'avancer que cette ligne de pensée libérale et démocratique peut être considérée paradoxalement comme une sorte d'expression de sentiment à la fois nationaliste et ouvert au monde, après la Deuxième Guerre mondiale, contre le nationalisme conservateur fermé et autoritaire, défavorable à la Constitution de 1946. Pour conclure, la conception dominante sur le pouvoir constituant de chaque pays varie essentiellement en fonction de son contexte historique et son développement constitutionnel. Les études comparatistes nous ont apporté la preuve en montrant combien les perspectives peuvent être extrêmement différentes ou relativement proches selon les pays. Dans la situation actuelle du droit constitutionnel comparé, fortement globalisé, on assiste au développement remarquable des études sur le pouvoir constituant originaire et dérivé, c'est-à-dire le pouvoir de révision constitutionnelle, sous de nouvelles perspectives juridiques. Par exemple, Andrew Arato, Post-Sovereign Constitutional Making et The Adventure of the Constitutional Power Beyond Revolutions, ou Yanis Rosnay, Unconstitutional Amendment, The Limit of Amendment Power, afin de chercher des standards mondiaux relatifs au pouvoir constituant. Je pense, par exemple, qu'il est devenu inévitable, dans un monde globalisé, muni de riches expériences diverses et intéressantes, de porter sur le pouvoir constituant et les processus constituants un regard croisé qui associe les dynamismes du droit constitutionnel et du droit international. Il me semble possible, à partir d'une telle approche, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la théorie de la limitation matérielle du pouvoir de rémission. Je vous remercie de votre attention.